vos manettes. Quittez la vie réelle pour plonger dans un monde de pixels. Cordialement Geek, la chronique high-tech et jeux vidéo avec Loli sur Neptune FM.
Bien bonsoir, bienvenue sur Neptune FM pour cette nouvelle émission de Cordialement Geek. Cette semaine, je vais vous parler du jeu Prince of Persia The Lost Crown. On parlera des tops des ventes de jeux vidéo de la semaine dernière, d'une news concernant la conférence Xbox qui a eu lieu hier soir. On parlera technologie avec la Corée du Sud qui promet un soleil artificiel durable d'ici 2 ans seulement. Et on finira avec les sorties jeux vidéo de la semaine. On commence donc avec le test du jeu Prince of Persia The Lost Crown. Donc c'est un jeu vidéo d'action, aventure et de plateforme qui est jouable en solo. Il a été réalisé par Mounir Radi avec la musique de Mentrix et Gareth Cocker, développé par Ubisoft Montpellier et édité par Ubisoft. Il est sorti le 18 janvier 2024 sur Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch et Amazon Luna. Le jeu est un retour aux sources de la franchise Prince of Persia et il a été annoncé lors du Summer Game Fest le 8 juin 2023. Dans Prince of Persia The Lost Crown, vous incarnez un guerrier du nom de Sargon. Vous êtes envoyé à la recherche du prince Ghassan, mais le temps lui-même joue contre vous. Il s'agit d'un titre en 2,5D inspiré par le genre Metroidvania. Le jeu est classé PEGI 16 et il obtient une note de 16 sur 20 de la part de jeuxvideo.com pour une note globale de 86 sur 100 sur Metacritic. Donc, il y a fort longtemps, un prodige du nom de Jordan Mechner mit au point une œuvre considérée comme pionnière dans le genre action-plateforme avec Prince of Persia. Doté de mécaniques et d'une technique révolutionnaire pour l'époque, il fit forte impression à la fin des années 80. Presque 35 ans après sa naissance et 14 ans après son dernier épisode, le héros de Perse revient plus en forme que jamais grâce à Ubisoft Montpellier dans un Metroidvania chaud comme le sable du désert iranien. Donc autrefois lieu merveilleux, le mont Kaf est désormais sous l'influence d'une terrible malédiction. S'aventurant dans les boyaux étouffants de cet endroit hors du commun à la recherche du prince kidnappé, Sargon est témoin de sinistres événements qui semblent venir des contes horrifiques qu'on lit aux enfants pour qu'ils craignent les menaces extérieures. Les morts se relèvent, les monstres sortent de leur tanière, les couloirs deviennent des labyrinthes et le temps déraille. Le plus jeune représentant des immortels va alors se frotter à des dangers aussi colossaux que les gardiens mystiques décrits dans les légendes. La mort rôde partout et prend plusieurs formes, de la plus identifiable avec des monstres voraces ou des pics saillants à la plus dissimulée. Donc l'histoire de Prince of Persia The Lost Crown est contée via des artworks animés ainsi que des cutscenes utilisant le moteur du jeu. Bien que la narration soit citée par les développeurs comme faisant partie des quatre piliers de l'expérience, elle n'est clairement pas centrale. Le scénario est un prétexte pour nous faire voyager d'une zone à une autre de la manière la plus naturelle possible. Loin d'être oubliable malgré ses quelques rebondissements, il expose des héros pas forcément attachants, à commencer par Sargon lui-même. Les quelques PNJ amicaux qui vagabondent dans les dédales ne sortent pas non plus de l'ordinaire. Donc si la qualité d'écriture n'a jamais été l'élément le plus important d'un Metroidvania, elle peut aider le joueur à s'identifier au protagoniste et à ressentir de la joie, de la crainte ou de la tristesse par rapport aux événements clés. Malgré ses tentatives de nous secouer avec ce qu'il raconte, The Lost Crown narre une intrigue assez conventionnelle. Le studio arrive malgré tout à enchaîner l'arrivée de boss gigantesques, à changer nos habitudes grâce à des variations de gameplay et à faire apparaître des créatures inédites avec une belle efficacité. On aurait aimé des passages de course-poursuite impressionnantes à la Ori, mais on en demande peut-être un peu trop. De manière plus générale, le titre souffre d'un manque certain d'originalité. Donc certes, le Metroidvania est un genre qui a connu beaucoup d'ambassadeurs ces dernières années, mais on aurait aimé une personnalité plus marquée. Même constat pour les décors, palais, caves, douves, forêts, montagnes, déserts, toutes les cases du classique Metroidvania sont cochées. Donc comme chacun le sait, le plus important dans un action-adventure platformer, ce n'est pas son histoire, mais son gameplay. Prince of Persia The Lost Crown abandonne l'action-aventure en 3D intégrale des années 2003 à 2010 pour miser sur le Metroidvania en 2,5D. À première vue, ce choix sonne comme un retour aux sources puisque nous suivons les actions du héros avec une caméra en vue de profil, comme à l'époque où Jordan Mechner nous initiait au charme de la série sur Apple II. Sauf qu'avec ce nouvel épisode, le studio français emprunte plus à Ori and the Will of the Wisps, The Last Case of Benedict Fox, Hollow Knight ou encore Metroid Dread, plutôt que de puiser dans les vieilles amphores. Toute la grammaire du genre est utilisée avec des portes à ouvrir, des passages secrets à débusquer et des sauts à briser. Le cahier des charges est donc respecté. Les anciens bâtisseurs le savent, pour qu'un château passe l'épreuve du temps, ses fondations doivent être solides. Et du temps, le joueur va clairement en perdre pour explorer de fond en comble les artères de cet univers. Metroidvania oblige, Prince of Persia The Lost Crown se découpe en zones distinctes, au sein d'un même monde. Les chemins se débloquent au fur et à mesure que le joueur acquiert de nouvelles aptitudes, les cartes de ces zones s'achètent en dépensant un peu d'argent auprès d'un PNJ, ce qui n'est clairement pas du luxe pour s'y retrouver dans cet amas de couloirs et de cavernes. Donc comme à l'accoutumée, il est nécessaire de bien ouvrir les yeux, car la solution à un problème se cache toujours insidieusement dans le décor, surtout lors des énigmes particulièrement tordues. Donc s'il peut être aisé de se perdre dans la pléthore de galeries du jeu, Ubisoft a pensé à tout pour rendre l'exploration plaisante. À commencer par des traînées dorées qui indiquent le chemin à suivre pour activer un arbre wak-wak, donc qui servent de checkpoint, de recharge de potions de soins et de personnalisation des amulettes. Les développeurs ont aussi directement intégré au jeu un système de photographie qui permet d'épingler des screenshots sur la map. The Lost Crown dispose également de deux modes d'exploration, un pensé pour les amateurs du genre et un autre imaginé pour celles et ceux voulant gagner du temps, avec des icônes plus précises inscrites sur la carte. Dommage que les arbres ne servent pas au Fast Travel, une fonction dédiée à des stèles à dénicher qui ne sont pas toujours idéalement placées. Enfin, tous les Metroidvania n'y pensent pas, le stick gauche déplace la caméra pour dévoiler ce qui se cache dans quelques mètres, devant, derrière, au-dessus ou bien en dessous, ce qui est très pratique. Afin de garantir une bonne lisibilité, le héros apparaît en surimpression sur les éléments du décor au premier plan, ce qui est plutôt bien vu. Voilà, on va faire une petite pause dans ce test, on va s'écouter une musique extraite du jeu, donc Prince of Persia The Lost Crown. C'est Général Uvishka, composé par Gareth Cocker, et on revient juste après. Donc c'était la musique générale Uvishka composée par Gareth Cocker et extraite du jeu Prince of Persia The Lost Crown. On continue donc avec la deuxième partie de ce test. Donc en plus d'arpenter des labyrinthes tentaculaires et de résoudre des énigmes, le joueur va surtout combattre. Les mouvements sont multiples, course, saut, dash, bond de mur en mur, glissade, tout est là pour se sortir des situations les plus périlleuses. Qu'il se serve de ses lames, de sa magie, de son arc ou du chakram, Sargon possède ce qu'il faut pour faire mordre la poussière à ses opposants dans un déluge de violence. Contrairement à d'autres Metroidvania du marché, ce Prince of Persia encourage les affrontements véloces. La large palette de coups alliés à un gameplay qui fait la part belle au timing serré pour parer, contrer, le rapproche de ce que l'on voit dans certains jeux de combat. Et un seul adversaire d'un niveau avancé est capable de poser de gros problèmes si on se contente d'appuyer frénétiquement sur la touche d'attaque. Contrairement à The Last Case of Benedict Fox, les cristaux sont octroyés à chaque réapparition d'ennemis, il est donc possible de grinder pour s'acheter de belles améliorations à la boutique. Donc avec un peu d'entraînement, on se met à glisser pour éviter les charges mortelles, à envoyer les adversaires dans les airs pour les rendre vulnérables, à lancer la garde pour punir l'opposant et à activer les spéciales quand la jauge d'Atra est chargée. Cette dernière monte quand Sargon inflige des coups et descend quand il en reçoit, de quoi forcer le joueur à prendre des risques afin d'avoir l'opportunité de déclencher une magie salvatrice. Cependant, quitte à emprunter les codes du versus fighting, on aurait apprécié pouvoir exécuter des chops, surtout quand les belligérants sont capables d'en sortir. Grâce à un système d'amulettes à trouver puis à équipé, Prince of Persia s'adapte aux envies du joueur. En combinant les compétences qui répondent à vos attentes, votre Sargon mettra le feu au rang ennemi, sauf si ces derniers sont trop nombreux, auquel cas le guerrier s'en prendra plein la tête, surtout dans les niveaux de difficulté les plus avancés. Si le gameplay de combat est bien pensé en 1 contre 1 ou face à de petits groupes d'ennemis, il montre rapidement ses limites lorsque des hordes d'adversaires se dressent sur votre route. Quand les méchants sont plus nombreux que les cheveux sur le crâne de Sargon, ce qui arrive à quelques moments de l'aventure, on entre alors dans un Capharnaüm plus bourrin que technique, où le sauve-qui-peut est de rigueur. À une époque, Prince of Persia basait la plupart de ses mécaniques sur le temps. C'est moins vrai pour cet épisode de 2024. Donc bien que le temps ait toujours une importance dans certains tableaux, il n'est plus un élément central de l'expérience. En réalité, hormis des séquences scriptées où tout est figé à l'écran et celles contre l'antagoniste principal qui maîtrise le rewind, le temps ne fait plus vraiment partie des rouages de Prince of Persia. Certes, le joueur peut créer une empreinte de son avatar dans le monde pour s'y téléporter quand bon lui semble, et il peut piéger des adversaires dans un monde parallèle afin de les balancer plus tard, mais sorti de ces quelques exemples, The Lost Crown esquive ce qui est lié à l'espace-temps dans son gameplay, ce qui est un peu dommage. La palette d'action, large lorsque l'on ajoute les capacités qui s'acquièrent durant le périple, permet aux level designers de montrer l'étendue de leur talent. Les niveaux utilisent aussi, astucieusement les compétences du héros, certains endroits font la part belle à de la plateforme hardcore, ne laissant aucune place à l'erreur. De la plateforme tendue et des pièges vicieux, le titre d'Ubisoft en a d'ailleurs à revendre. Les amateurs de tryhard en auront pour leur argent, malheureusement les approximations sont aussi de la partie et les petites errances deviennent gênantes vers la fin de l'aventure quand l'erreur n'est plus permise. C'est à ce moment que l'on remarque des hitbox pas toujours fabuleuses, une inertie sournoise, des bugs de collision avec les plateformes mouvantes ou encore des animations de choc pouvant entraîner une boucle sans fin de dégâts. De quoi faire donc passer un challenge corsé comme légèrement injuste. Tournant en 60 fps même sur Switch, avec la possibilité de monter en 4K 120 fps sur PS5 et Xbox Series X, le titre d'Ubisoft est agréable à l'œil. La modélisation 3D est de bonne facture, les textures sont nombreuses et les effets spéciaux liés au combat ont de l'allure. D'ailleurs, le style du jeu s'inspire des animés japonais et des comics. Les super attaques, comme le design de quelques grands méchants, rappellent furieusement Dragon Ball Z, une source d'inspiration qui est clairement citée par les artistes d'Ubisoft Montpellier. Le soft mélange des artworks en 2D pour les paysages avec des objets, lieux et personnages en 3D. Les plus anciens d'entre vous regretteront d'ailleurs sûrement une direction artistique qui s'éloigne du jeu d'origine, aux accents orientaux trop discrets, supposément conformes aux attentes d'un public assez jeune. Mais Ubisoft a fait le choix de la modernité. Donc même s'il n'est pas révolutionnaire d'un point de vue purement technique, The Lost Crown parvient à laisser une bonne impression grâce à sa fluidité exemplaire. Très réussi pour de la Switch, il faut quand même avouer que le jeu n'est pas bien impressionnant sur PS5 et Xbox Series X. La faute à des textures pas toujours très détaillées, à des effets spéciaux manquants et surtout à des animations pas toujours au top en ce qui concerne les adversaires et les PNJ. Les cinématiques en artwork animé ou les dialogues qui se font avec des images des personnages rappellent que Prince of Persia n'a sûrement pas bénéficié d'un budget digne des derniers AAA de l'éditeur. Histoire de nous plonger plus profondément dans cette perse revue et corrigée, l'ambiance sonore a quant à elle bénéficié d'un soin particulier. Les musiques d'ambiance, quoiqu'un peu répétitives en fonction du temps que l'on passe dans une zone, sont de bonne facture. Les thèmes plus épiques, composés par le décidément très prolifique Gareth Cooker, sont excellents. Le sound design, de son côté, allie finesse et qualité, pour un résultat quasiment irréprochable. Les doublages français font dans le surjeu, un peu comme dans certains films d'animation, mais ne sont pas mauvais pour autant. Cela étant dit, Ubisoft a eu la bonne idée d'inclure le farsi dans les langues audio, ce qui est un vrai plus pour l'immersion. Donc pour résumer les points forts du jeu, on a un cocktail très réussi entre combat, exploration, plateforme et énigme, la combinaison de tous les pouvoirs qui mène à des séquences intéressantes, on a beaucoup d'éléments de personnalisation avec notamment les combats et la difficulté, un jeu long et bien rythmé avec beaucoup de choses à voir et à faire, et un sound design de qualité. Pour les points faibles, on a un jeu finalement pas très original dans les mécaniques qu'il propose, des combats confus quand il y a trop d'adversaires qui entrent dans la danse, un scénario et des personnages loin d'être inoubliables, des petites imprécisions de gameplay irritantes à la fin de l'aventure, et on aurait aimé des versions PC, PS5 et Xbox Series un peu plus jolies. Voilà, du coup pour terminer ce test, on va écouter une autre musique extraite du jeu Prince of Persia The Lost Crown, c'est Out of the Desert de Gareth Cooker et on revient juste après. Donc c'était la musique Out of the Desert composée par Gareth Cooker, une musique extraite du jeu Prince of Persia The Lost Crown. On va faire une petite pause publicité et on reviendra juste après pour parler des tops des ventes de jeux vidéo de la semaine dernière, du news jeux vidéo, du news technologie et on finira avec les sorties de la semaine. À tout à l'heure.
À vos manettes, quittez la vie réelle pour plonger dans un monde de pixels. Cordialement Geek, la chronique high-tech et jeux vidéo avec Loli sur Neptune FM.
Rebonsoir, re-bienvenue sur Neptune FM pour la deuxième partie de l'émission Cordialement Geek. On va tout de suite commencer avec le top des ventes de jeux vidéo de la semaine dernière. Donc le top 5 qui fait aussi top Nintendo Switch. On a en 5ème place EA Sports FC 24 sur Nintendo Switch, un jeu d'Electronic Arts. En 4ème place c'est Spider-Man 2 sur PS5, un jeu de Sony Interactive Entertainment. En 3ème place c'est EA Sports FC 24, mais cette fois sur PS5. En 2ème place Mario Kart 8 Deluxe sur Nintendo Switch, un jeu de Nintendo. Et en première place, c'est Super Mario Bros. Wonder sur Nintendo Switch, un jeu de Nintendo. Le top 3 pour la PS5, on a en troisième place Call of Duty Modern Warfare 3, en deuxième place Spider-Man 2 et en première place EA Sports FC 24. Pour la Xbox Series, on a en troisième place Avatar Frontiers of Pandora, en deuxième place EA Sports FC 24 et en première place Call of Duty Modern Warfare 3, l'édition CrossGen. Pour la PS4, on a en troisième place Hogwarts Legacy, en deuxième place Call of Duty Modern Warfare 3 à l'édition CrossGen, et en première place EA Sports FC 24. Pour la Xbox One, on a en troisième place Red Dead Redemption 2, en deuxième place Grand Theft Auto 5, l'édition Premium, et en première place Hogwarts Legacy. Le dernier top, c'est le top 3 PC, avec en troisième place EA Sports FC 24, en deuxième place Farming Simulator 22, et en première place Minecraft Java and Bedrock. On passe maintenant à la news jeux vidéo. Donc le Xbox Developer Direct a eu lieu hier soir, jeudi 18 janvier à 21h, heure française. L'occasion pour la marque de prendre la parole pour la première fois de l'année et d'annoncer sa feuille de route. Autant dire que les 12 prochains mois s'annoncent chargés en grosses sorties. Donc la conférence Xbox a débuté par de nouvelles informations sur Avowed, le prochain RPG fantastique du studio Obsidian, qui a notamment développé l'excellent Fallout New Vegas, mais également plus récemment The Outer Worlds. C'est une habitude de l'équipe, le titre mettra l'accent sur des choix narratifs importants. Au niveau du gameplay, le système de combat s'annonce dynamique, que ce soit avec de la magie, des armes au corps à corps ou même des armes à feu. La sortie du soft est prévue pour cet automne 2024. Le très attendu Hellblade 2, créé par Ninja Theory, a également donné de ses nouvelles. Sa date de sortie est prévue donc pour le 21 mai 2024. Pour rappel, vous contrôlez ici Senua, qui est atteinte de psychose et qui entend des voix. Les développeurs ont travaillé avec des neuroscientifiques, des spécialistes de la santé mentale et des personnes qui souffrent de cette maladie pour représenter au mieux ces troubles anormaux de l'esprit. Visions of Mana par Square Enix a lui aussi montré le bout de son nez. Donc prévu pour cet été 2024, ce sera le premier épisode à sortir sur Xbox, mais il sera également disponible sur PS4, PS5 et PC. C'est donc un grand retour de la série puisque le dernier véritable épisode date d'il y a 15 ans. ARA History Untold, développé par Oxide, studio fondé en 2013 par des anciens de Civilization, a son tour eu le droit à une annonce. Disponible en automne 2024, c'est concrètement un autre Civilization. Donc il y aura de nouveau un système où vous devrez choisir un leader et développer son peuple de l'âge de pierre à l'âge moderne. Sur une carte générée de façon procédurale, vos progrès influenceront l'univers du monde. Bonne nouvelle, le jeu proposera un système de tours simultanés pour le mode multijoueur. Donc en plus d'ajouter du dynamisme à chaque partie en retirant les temps morts, il vous forcera à être toujours dans l'anticipation de ce que fera votre adversaire. Et pour finir, l'un des plus gros titres annoncés est Indiana Jones, The Great Circle, développé par Machine Games, les développeurs des derniers Wolfenstein. Un projet qui trotte depuis longtemps dans la tête de Todd Howard, le producteur du projet. Donc le jeu est à la première personne, ce qui est assez inédit pour le genre. Porté par le nom du Cercle Ancien, le titre se déroulera entre les films Les Aventuriers de l'Arche Perdue et La Dernière Croisade. Un premier gameplay a d'ailleurs été dévoilé durant la soirée, et bonne nouvelle pour les fans, ce cher indie aura bien le visage jeune d'Harrison Ford. Donc pour la date de sortie, on n'en a pas encore, mais on sait qu'il devrait sortir cette année, donc en 2024. On passe maintenant à la news technologie. Donc le soleil artificiel sud-coréen vient de recevoir une amélioration clé qui lui permettra de générer un plasma à très haute température pendant des périodes nettement plus longues très prochainement. L'idée sous-tendant la fusion nucléaire, source d'énergie propre et quasi inépuisable, est de recréer les processus intervenant dans les entrailles du soleil où d'énormes forces gravitationnelles se combinent afin de produire un plasma dans lequel les noyaux s'entrechoquent à grande vitesse pour former de l'hélium et libérer des quantités phénoménales d'énergie. Les réacteurs tokamak sont conçus pour recréer ce processus sur Terre grâce à une série de bobines placées autour d'un réacteur en forme d'anneau, confinant magnétiquement le plasma chauffé à des millions de degrés pendant une durée suffisante pour que la fusion des noyaux se produise. Situé à Daejeon, dans le centre de la Corée du Sud, le réacteur expérimental K-Star avait atteint pour la première fois la barre des 100 millions de degrés Celsius en 2018. Si une telle température avait à l'époque été maintenue pendant une seconde et demie seulement, cette durée était passée à 8 secondes en 2019, 20 secondes en 2020 et 30 secondes en 2022, constituant son dernier record en date. Donc comme prévu, l'installation a récemment vu son divertor en carbone, donc c'est une partie du dispositif en contact direct avec le plasma qui vise à évacuer les produits de la réaction de fusion et ainsi maintenir les conditions nécessaires pour qu'elle se poursuive. Donc ce divertor en carbone a été remplacé par un composant en tungstène, présentant entre autres des caractéristiques précieuses avec un point de fusion élevé. Donc si les tests du nouveau divertor devraient se poursuivre jusqu'en février 2024, les chercheurs sud-coréens estiment pouvoir maintenir une température de 100 millions de degrés Celsius pendant 300 secondes d'ici fin 2026. Selon Suk Jae-woo de l'Institut coréen de l'énergie de fusion, les données amassées au cours des prochains mois contribueront significativement au développement et à l'optimisation de l'ITER, le plus grand réacteur tokamak au monde. Donc situé dans le sud de la France, ce dernier devrait produire son premier plasma l'année prochaine. Voilà, on va maintenant finir l'émission avec les sorties jeux vidéo de la semaine. Donc on a eu 3 sorties aujourd'hui vendredi 19 janvier, avec The Last of Us Part 2 Remastered sur PS5, Palworld sur PC, Xbox Series et Xbox One, et Another Cord Recollection sur Nintendo Switch. Pour mercredi 24 janvier, on aura la sortie de Enshrouded sur PC et Apollo Justice Ace Attorney Trilogy sur PC, Nintendo Switch et PS4. Et la dernière sortie de la semaine, ça sera pour jeudi 25 janvier avec Under Night Inbirth 2 6 Celeste qui sera disponible sur PC, PS5 et Nintendo Switch.
Cordialement Geek, la chronique high-tech et jeux vidéo sur Neptune FM.
Donc voilà, c'est ce qui termine l'émission de Cordialement Geek de cette semaine. Je rappelle que vous pouvez me retrouver sur Facebook pour l'émission Cordialement Geek, mais aussi pour mon autre émission Asian Bubble que vous retrouverez lundi prochain de 21h à 22h sur Neptune. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end et à tchéfette.
Retrouvez Cordialement Geek chaque vendredi à 18h30 avec Loli sur Neptune FM. À retrouver en podcast sur neptunefm.com.